Il est 14h45 sur France Culture, c'est l'heure pour nous de retrouver la bibliothèque idéale de l'écho. Le livre que nous avons choisi aujourd'hui s'appelle « The Modern Corporation and Private Property, l'entreprise moderne et la propriété privée » d'Adolf Berle et Gardiner Means, un ouvrage qui va révolutionner la connaissance des grandes entreprises lors de sa publication aux États-Unis en 1932. Et c'est Marianne Rubinstein qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en économie à Sorbonne Université. Alors pour l'économiste John Galbraith, l'ouvrage de Berle et Means est l'un des deux livres les plus importants des années 30 avec la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie de Keynes. Pour quelles raisons, selon vous, Marianne Rubinstein ?
D'abord parce que, en fait, Berle et Means ont été les premiers à mettre en évidence ce qu'on va appeler la grande entreprise managériale, c'est-à-dire le fait que dans la grande entreprise, il y a une dissociation de la propriété et du contrôle. D'un côté, il y a les actionnaires qui sont propriétaires d'actions, donc du capital social, et de l'autre, il y a les dirigeants d'entreprises, salariés, qui en fait ont le pouvoir dans l'entreprise. Et à l'époque, ils utilisent une enquête qui concerne les 200 plus grandes entreprises américaines, et ils se rendent compte que 44% de ces grandes entreprises américaines ne sont pas contrôlées par des actionnaires, mais elles sont contrôlées par des dirigeants salariés. Et ça, c'est absolument inattendu, et c'est quand même tout d'un coup la prise de conscience que les droits de propriété des actionnaires sont affaiblis, puisque finalement ils sont propriétaires du capital social sans contrôler ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise.
En quoi est-ce que c'est nouveau, Marianne Rubinstein ? Quel était le système qui prévalait avant ?
L'idée qu'on a plutôt de l'entreprise, c'est celle de l'entrepreneur dirigeant qui est propriétaire d'une partie du capital de l'entreprise, même si parfois il fait appel à des actionnaires extérieurs, mais c'était l'idée d'une pleine expression des droits de propriété. Et puis, je vous dis, avec un entrepreneur, capitaine d'industrie, schumpeterien, qui innove, qui prend des décisions. Et là, non, c'est pas du tout le cas. Finalement, pour la majorité relative des entreprises qu'ils étudient, ils se rendent compte que ce sont des dirigeants salariés qui sont montés, finalement, dans la hiérarchie des cadres, qui sont au sommet de la hiérarchie des cadres, mais qui sont des salariés. Donc ça, c'est complètement nouveau. Et ça veut dire qu'on est très très loin du capitaine d'industrie, de l'entrepreneur innovateur finalement.
Alors on va voir quelles conséquences va avoir cette dissociation entre d'un côté la propriété et de l'autre le contrôle de l'entreprise. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire, Marianne Rubinstein, dans quel contexte politique, économique cet ouvrage est publié, et nous présenter en quelques mots ses auteurs, donc le juriste Adolf Berle et l'économiste Gardiner Means.
Bon, on est juste après la crise de 29, après évidemment la Première Guerre mondiale, donc dans un moment de grande crise économique. Et Adolf Berle, qui est le juriste de la bande, puisqu'il y a un juriste et un économiste, et là aussi c'est quelque chose qui est intéressant, puisque on est dans l'interdisciplinarité, et je pense que ça contribue à la richesse de l'ouvrage. Bref, Berle est l'économiste de la bande, il a été formé à
le
Harvard.
Juriste.
Et le juriste de la bande, il a été formé à Harvard, il enseignera également à la Columbia, à New York. Il a également une carrière de diplomate, et il va conseiller à la fois le président Roosevelt et le président Kennedy. Petite anecdote, il est comme Keynes d'ailleurs à la conférence de la paix en 1918 à Paris. Il pense que la conférence de la paix qui va aboutir au traité de Versailles va dans le mur, et du coup il démissionne de ses fonctions.
Quant à Gardiner Means, ce n'est pas un économiste classique, il est plus proche de ce qu'on appellerait aujourd'hui la sociologie économique.
Disons que les deux sont classés parmi les institutionnalistes américains.
Qu'est-ce qu'on entend par institutionnaliste ?
Institutionnaliste, qui accorde de l'importance au rôle des institutions. Alors c'est un peu large comme définition, mais c'est effectivement un panaché de sociologues et d'économistes au début du XXe siècle. Et Means, semble-t-il, aurait créé une entreprise de textile avant de rentrer à Harvard. Donc il rentre à Harvard tardivement. Donc tous les deux sont des produits de Harvard, de l'entre-deux-guerres. Voilà un peu pour les présentations.
Et à l'époque, la propriété industrielle américaine est en voie de passer des mains de l'entreprise privée aux mains d'importantes oligarchies industrielles. Et c'est ce que eux vont constater dans ce travail empirique dont vous nous avez parlé.
Tout à fait. Mais surtout, ils vont décrire ce que va être, encore une fois, la grande entreprise managériale dirigée par des salariés. employant des milliers de salariés, hein. Aujourd'hui, les grandes entreprises, c'est entre 100 000 et 500 000 personnes, voire plus, hein. Et puis avec une responsabilité des actionnaires qui se réduit aux capitaux qu'ils ont apportés, ce qui est une forme relativement nouvelle, en fait, hein, qui est la forme aujourd'hui de la société anonyme. Finalement, quand vous êtes actionnaire d'une société anonyme, vos risques sont limités aux capitaux que vous apportez. C'est tout.
En quoi la séparation entre le pouvoir des actionnaires et les organes de direction de l'entreprise a-t-elle détruit l'unité du droit de propriété qui prévalait dans l'économie? Et quelles questions est-ce que cela soulève, Marianne Rubinstein?
Ça détruit l'unité dans le sens où le contrôle, l'usus, finalement, n'est plus exercé par les actionnaires. Et le problème que ça pose, c'est le problème du conflit d'intérêts, avant tout. Est-ce que, véritablement, les dirigeants salariés vont agir dans l'intérêt des actionnaires? Est-il même légitime de demander que l'entreprise soit gérée dans l'intérêt des actionnaires? Donc ça pose en cascade ces deux questions fondamentales, celle du conflit d'intérêts entre des dirigeants qui ne sont pas rémunérés sur la base des dividendes, ou en tout cas, ça on verra aujourd'hui les modes de rémunération, mais justement ça a changé à cause de ça, et d'autre part, sur la légitimité de réclamer une entreprise qui soit gérée dans l'intérêt des actionnaires.
Et en même temps, les actionnaires en retirent des avantages de cette nouvelle organisation économique que nous sommes en train de décrire. Berlemins écrivent que les actionnaires ont préféré la liquidité au contrôle. Qu'est-ce que ça signifie?
Oui, alors, c'est intéressant parce que Berle est un juriste, donc il est très soucieux du droit de propriété, la préservation du droit de propriété. Malgré tout, la conclusion de leur ouvrage ne va pas tout à fait dans ce sens-là, parce qu'ils constatent, alors on a parlé tout à l'heure de cette forme de la société anonyme qui permet finalement à des apporteurs de capitaux de limiter leurs risques aux capitaux qu'ils apportent, et ils constatent que les apporteurs, les actionnaires, les apporteurs de capitaux sont devenus finalement des sortes de financiers qui cherchent à diversifier leur capital et qui donc sont des fournisseurs de capitaux, mais pas davantage. Et donc ils ont gagné la liquidité, c'est-à-dire la capacité de pouvoir échanger leurs titres à tout moment sur les marchés financiers, puisqu'on parle des grandes entreprises. Et d'une certaine façon, donc, ils ont perdu le contrôle, mais la question, toujours celle de la légitimité, faut-il tout faire pour leur redonner le contrôle? Eh bien, la réponse est plutôt non.
Alors, Berlemins tente en effet de répondre à cette question. Au bénéfice de qui les administrateurs détiennent-ils le pouvoir? Et quel intérêt l'entreprise doit-elle servir? Et il propose deux réponses qui sont assez contradictoires, Marianne Rubinstein.
Alors, ce qu'ils disent, c'est d'une part que l'entreprise, finalement, devrait être gérée, alors, point de vue normatif, c'est-à-dire dans un idéal, dans l'intérêt de la société, que l'entreprise devrait être finalement comme l'État, c'est-à-dire géré dans l'intérêt de tous, puisque les actionnaires finalement ont gagné la liquidité en perdant le contrôle et sont devenus simplement des fournisseurs de liquidité. Mais en même temps, tant que l'entreprise est aux mains du pouvoir discrétionnaire des dirigeants, il faut quand même contrôler ce pouvoir discrétionnaire pour pas que les dirigeants gèrent dans leur intérêt propre, juste à eux. Et là, Berle, en particulier, est beaucoup plus mesuré dans d'autres écrits, d'ailleurs, que cet ouvrage, en disant, attention, tant qu'il n'y a comme contre-feu, finalement, que la possibilité pour les actionnaires de réclamer, même si le droit est insuffisant, une forme de contrôle, il faut le préserver, parce qu'il ne faut pas que les dirigeants d'entreprises salariées utilisent l'entreprise uniquement dans leur intérêt. Donc dans un monde idéal, il cite d'ailleurs Walter Rathenau, l'entreprise finalement doit être gérée dans l'intérêt de tous, mais dans le monde réel, pour le moment, étant donné les outils économiques et juridiques dont on dispose, il faut quand même faire attention au danger d'un pouvoir discrétionnaire des seuls dirigeants qui n'utiliseraient leur pouvoir que dans leur intérêt.
Le fait qu'il y ait ces deux thèses qui peuvent avoir l'air assez contradictoires, c'est ce qui a entraîné le fait que les thèses de Berle et Mins ont été récupérées dans les années 80 par les partisans de la théorie de l'agence qui cherchent à aligner les intérêts des dirigeants sur ceux des actionnaires.
Tout à fait. La théorie de l'agence, en fait, considère que les dirigeants d'entreprise sont les mandataires des actionnaires et que donc la légitimité de gérer l'entreprise dans l'intérêt des actionnaires ne se pose pas tellement, elle leur semble évidente. Et dès lors, ce qu'il faut mettre en œuvre, ce sont des contrats qui vont conduire à aligner les intérêts des dirigeants d'entreprise sur ceux des actionnaires. Alors d'où les rémunérations exorbitantes que l'on connaît aujourd'hui, puisque en fait, la solution qu'ont trouvé les actionnaires, finalement, c'est de rendre les dirigeants actionnaires en leur distribuant soit ces fameuses actions gratuites, soit des stock options, c'est-à-dire des options d'achat à bas prix sur les actions. Hier, on a su que la rémunération moyenne des dirigeants du CAC 40, donc des 40 entreprises phares de la Bourse de Paris, est de 5,1 millions d'euros. Elle a augmenté de 14%. Donc, en regard de la modération salariale, on voit bien qu'il y a quand même un contraste très net. Et cela, en fait, a conduit à complètement dissocier les dirigeants des autres salariés. Donc, d'une certaine façon, la théorie de l'agent est parvenue à ses objectifs en payant très fortement des dirigeants qui effectivement servent avant tout les intérêts des actionnaires. Voilà. Mais on peut également interpréter Berlemins.
C'est ce que j'allais vous dire. À l'inverse, la seconde thèse de Berlemins, selon laquelle l'entreprise doit servir l'ensemble de la communauté, c'est une vision qui pourrait constituer les prémices de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise.
Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que c'est ça qui est paradoxal, c'est que d'un côté, la théorie de l'agence dit mais Berlemins, c'est nous, enfin, ils sont à l'origine de notre théorie, et de l'autre, les partisans de la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise disent mais Berlemins sont les précurseurs, alors que ces deux modèles s'opposent. Voilà. Donc, effectivement, chez Berlemins, dans le dernier livre, le livre 4, il y a le projet ambitieux de fonder une autre entreprise que celle qu'on connaît, une entreprise au service de tous. Donc, pas seulement un habillage environnemental pour répondre aujourd'hui aux enjeux écologiques et du développement durable, mais une entreprise pensée avec une responsabilité sociale forte. Voilà, donc c'est ça qui est l'ambiguïté de l'interprétation. Elle réside effectivement là.
En quoi cet ouvrage, Marianne Rubinstein, a-t-il influencé votre vision de l'économie? Et plus largement, quelle est la postérité des thèses de Berle et Mins? En quoi permettent-ils aujourd'hui de comprendre l'entreprise du 21e siècle?
Alors, je me souviens de ma surprise et de la séduction qu'a exercé l'ouvrage. J'écrivais au début des années 2000 un article sur le gouvernement d'entreprise et j'avais toujours entendu que Berlemins c'était les précurseurs de la théorie de l'agence. Et quand j'ai lu le livre 4, j'ai vraiment été complètement étonnée de lire ce que je lisais. La grande entreprise, je trouve, est devenue extrêmement dur pour les salariés, sans compter effectivement les conséquences environnementales de l'activité industrielle. Et donc, je trouve que ce qu'il développait est une réflexion qu'il faut conduire. Alors, c'est effectivement un des apports. Donc, il y a cette impulsion pour penser l'entreprise autrement, hein, avec les enjeux effectivement du développement durable, mais également des inégalités de revenus. Et puis, il y a également quelque chose qui, moi, à titre personnel, me séduit plus. Cette interdisciplinarité, c'est un ouvrage qui se situe sur les frontières. Les frontières sont souvent des bords tranchants. Et moi, ça me séduit beaucoup de voir à la fois un économiste et un juriste qui ont écrit cet ouvrage et qui, finalement, ont réussi à déployer une vision qui, jusqu'alors, n'avait jamais été déployée précisément du fait de l'interdisciplinarité.
Merci beaucoup, Marianne Rubinstein. Je rappelle l'un de vos derniers livres, Détroit, un roman sur la désindustrialisation, paru chez Vertical.
Détroit, dit-elle. En hommage à Marguerite Duras. Justement, quelque chose à la frontière de la littérature et de l'économie.
Un grand merci.